Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience et la librairie Mola à Bordeaux. Nous accueillons aujourd'hui Nadia Amezian et Jean-Denis Vigne. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Denis Vigne, vous êtes archéozoologue et biologiste, ancien directeur de recherche du Muséum national d'histoire naturelle et directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez reçu, excusez du peu, la médaille d'argent du CNRS en 2002 pour l'ensemble de vos travaux. Qui ont porté, entre autres, sur la domestication des différentes espèces dans le bassin méditerranéen. Nadia Amezian, vous êtes biologiste, professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Vous dirigez la station de biologie marine de Concarneau, la plus ancienne, m'a-t-on dit, station du monde encore en activité. Vos recherches explorent la biodiversité marine, notamment celle de l'océan Austral, et vous avez été nommé chevalier de la Légion d'honneur en octobre 2007. Félicitations. Mais si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas pour vos recherches individuelles, hein, mais parce que vous avez participé ou co-dirigé un ouvrage formidable que j'ai entre les mains, que vous avez devant vous, qui s'appelle « La Terre, le vivant, les humains ». Alors pourquoi je dis formidable ? Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu j'avais pas fait un voyage aussi foisonnant dans la diversité de la connaissance. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on découvre un champ incroyable sous forme d'articles successifs de pas mal de recherches et de découvertes aux frontières de la connaissance dans plein de domaines différents. Jean-Denis Vigne, vous avez co-dirigé cet ouvrage. Dans quel but avez-vous rassemblé autant de compétences dans un même ouvrage ? Je crois qu'il y a plus de 120 scientifiques qui ont écrit plus d'une centaine d'articles.
Oui, il y a une centaine d'articles, 99 très exactement, plus les introductions, etc. L'objectif, c'était, ce qui nous anime au muséum depuis pas mal de temps, hein, même deux siècles, on pourrait dire, mais plus particulièrement depuis qu'on a Bruno David comme président, il faut bien le dire, hein, c'est le fait de vouloir parler à la société. C'est-à-dire qu'on ne reste pas un muséum qui fait son travail de présentation de collection, d'enrichissement de collection, de conservation, de recherche, d'enseignement, mais qui s'investit dans la société sur les grandes questions, non pas pour édicter des règles à suivre ou pour se substituer aux décisions sociétales ou aux décisions des politiques, mais pour informer, éventuellement proposer des solutions et en tout cas jouer un rôle d'acteur de la société. Et donc, on a tout un tas de moyens à notre disposition pour faire ça. Ce livre en est un. Et la deuxième raison pourquoi faire ce livre en particulier, c'est parce que on est en contact avec beaucoup de publics. En plus, on a les sciences participatives, hein, qu'on adore. Là, on a plein de réseaux participatifs, etc. Mais le public, on s'en rend compte, a de l'histoire naturelle une image. En général, ils trouvent ça très sympathique. C'est très positif comme image, mais c'est un peu vieillot. C'est-à-dire que l'image qu'on garde de l'histoire naturelle, c'est les dinosaures, le squelette de baleine de la galerie d'anatomie comparée ou les papillons des sciences participatives. Et nous, ce qu'on vit tous les jours en tant que scientifique au muséum, c'est des recherches qui sont publiées dans les meilleures revues et qui, chaque jour, sont de nouvelles découvertes et font avancer la science. Et ça, le public ne le sait pas beaucoup. Donc, c'était vraiment une motivation forte que dire on va essayer de présenter des choses un petit peu nerveuses, quoi, des choses qui montrent qu'on fait des choses nouvelles, qu'on déconstruit peut-être les idées reçues, parce que c'était un des objectifs, hein, on déconstruit les idées reçues, et puis on apporte encore de l'émerveillement à travers les résultats de nos recherches.
Alors, avant d'aller dans l'émerveillement, avant d'aller dans le fait qu'on découvre des choses, notamment qu'on n'est qu'un animal, toutes ces choses-là, l'histoire des muséums, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé aussi, parce que c'est un plaidoyer. Hein, on a deux éminents chercheurs du muséum. Ici, ce livre est un plaidoyer pour les muséums, leur intérêt, leur contribution à la société, leur responsabilité dans le dialogue, dans le fait de trouver des solutions aux enjeux qui sont les nôtres. Mais ça vient de loin, ça vient de Louis XIII. Et en fait, les vicissitudes de l'histoire, moi, m'ont éclairé aussi sur justement ce que vous disiez, cette image poussiéreuse qu'on peut avoir, qui n'est pas du tout une réalité. Pourquoi c'est là ? Pourquoi ça a cette forme-là de collectionnite, de taxinomie ?
Bon, alors c'est vrai que c'est
rapidement, par contre.
Hein. C'est, oui. Justement, c'est pour ça que je voulais vous proposer d'insister sur un point, parce que l'histoire des muséums, pourquoi des muséums, quelle société a produit des muséums, c'est un très vaste sujet. Effectivement, on peut partir de Louis XIII et puis avoir un jalon qui est important, c'est celui de la fondation par la convention en 1793 du Muséum national d'histoire naturelle, non pas tel qu'il est maintenant, parce qu'il y avait des chairs, etc. Mais ça, c'est un moment important, parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà le Jardin du Roi qui avait existé depuis un siècle et demi, il y avait Buffon qui avait fait toute son œuvre, ses élèves, etc. Et au moment de cette cristallisation du muséum, autour d'une idée précise, eh bien, il y avait une chaire qui était celle du médecin du roi. C'était la préfiguration de la chaire, enfin, en 1793, il y avait encore un roi, plus pour longtemps. et c'était la préfiguration, finalement, de la présence de l'anthropologie dans toutes ses composantes au sein du muséum. Et le muséum, ensuite, s'est construit, par exemple, le titulaire de la chaire d'anthropologie dans les années 1820 était un grand ami de Cuvier, et l'évolution de l'homme et l'évolution que Cuvier refusait en tant que phénomène, mais qu'il décrivait chaque jour dans son Anatomie comparée, c'était quelque chose qui était commun à l'homme et aux animaux. Et c'est comme ça que le muséum a pu accueillir la préhistoire à la fin, dans la deuxième moitié du 19e, et puis ensuite développer au moment du grand boom sur les cultures coloniales du milieu du 20e siècle, au début du 20e siècle, milieu du 20e siècle, a pu développer toute cette ethnobiologie, hein, toute cette agronomie des pays intertropicaux. C'est comme ça que moi je suis un archéozoologue, je suis un archéologue en fait, hein, mais c'est comme ça qu'un archéologue peut trouver sa place sans problème au muséum national d'histoire naturelle de France. J'aurais pas trouvé en Angleterre, j'aurais pas trouvé en Allemagne, j'aurais trouvé dans aucun pays en Europe, parce que les autres muséums qui se sont construits sont des muséums d'histoire naturelle au sens strict, je dirais, et ils se sont construits à côté de muséums d'histoire culturelle partout en Europe. Donc il y a une rupture, une scission qui est le fruit de cette scission entre nature et culture, hein, dont vous avez entendu parler avec Philippe Descola, bien sûr, mais qui a cristallisé au milieu du 19e siècle. Et alors que le muséum, il est passé au travers. Et donc on a la chance de se retrouver après une période d'étiage terrible, parce que c'était le tout moléculaire, hein, les années 60, 70, 80. Et nous, avec nos collections qu'on qualifiait toujours de poussiéreuses, eh bien, on n'avait plus la voix au chapitre. Et on s'est retrouvé avec les problèmes de société. Je ne dis pas que c'est très bien qu'il y ait un réchauffement climatique et une érosion de la biodiversité, au contraire. Mais on s'est retrouvé avec ces questions de société mises au centre, sous les projecteurs, parce qu'on avait ce gros avantage d'avoir à la fois des compétences en histoire naturelle et en histoire culturelle, et d'être capable de les mener de front, ce qui n'est pas facile et ce qu'on fait pas parfaitement. Mais voilà, ça, pour résumer, c'est ça le. Et puis je vous parlerai, si on a le temps, de ce qui s'est passé en Amérique, parce que c'est pas la même évolution. Je peux le dire en un mot, mais non, mais c'est comme vous voulez, hein, vous me dites.
Qu'en pense le public? Oui, j'ai entendu un oui, oui.
Je vous le dis en un mot. Je vous le dis en un mot. Je vous le dis en un mot. Alors en Amérique, que ce soit en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, ou que ce soit en Amérique du Sud, en Argentine en particulier, il y a des muséums d'histoire naturelle qui englobent le culturel. Mais c'est un culturel très particulier, c'est celui des peuples autochtones. Parce que initialement, quand ces muséums ont été fondés, un tout petit peu après les grands muséums d'Europe, mais pas beaucoup, eh bien, ils ont considéré que l'histoire naturelle de l'Amérique, c'était les peuples autochtones. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils faisaient partie de la faune, mais ils faisaient partie de ceux qu'on étudiait dans l'histoire naturelle. Et du coup, l'archéologie, l'anthropologie, etc., ont été entraînés dans ces muséums, qui sont des muséums d'histoire naturelle et culturelle, non pas pour les mêmes raisons que celui de France, mais en parallèle, d'une certaine manière.
Merci. Du coup, en fait, moi, ça me fait très peur. C'est-à-dire que je me dis, quel héritage. Donc, Nadia Amézian, ça fait quoi, du coup, d'être chercheur Est-ce que ça n'a pas un côté un peu sacerdotal? Alors,
avant de vous répondre, je vais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit auparavant. Donc, vous n'avez pas dit. C'est que ce livre, ça peut faire peur, la façon dont vous en avez parlé, mais il se lit comme une BD, quoi. Je veux dire, moi, parce que je suis BD-phile. On peut l'ouvrir à n'importe quelle page. Ce sont des histoires qui se lisent indépendamment des unes des autres, ou vous pouvez le lire d'une traite, mais c'est un livre qu'on peut poser, reprendre, et qui est facile d'accès. Parce que c'est vrai que quand je t'entends parler, je me dis « Ouh, on va faire peur avec la science
ah, ». Moi, il m'avait fait peur. Et en fait, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout, parce qu'on peut le lire vraiment, comme vous dites, soit en le picorant, soit d'une traite, parce qu'il y a une cohérence globale du sujet. Non, c'est enfin, moi, j'ai vraiment fait un voyage fascinant.
Voilà, c'est pour ça que je tenais quand même à
Bien sûr. Très bien, Nadia.
Et puis, autre chose que je vais rappeler, que tu n'as pas dit par rapport à la spécificité du Musée national d'histoire naturelle français, c'est qu'on est le seul musée où les chercheurs, et du coup, je répondrai aussi à votre question, sont également les conservateurs. On n'a pas de conservateurs au sens propre du terme. Ce sont les enseignants-chercheurs qui vont étudier les collections, les gérer et qui vont les alimenter. Ce qui va expliquer les chiffres dont on parlera plus tard de collections. Mais
vous êtes aussi enseignant-chercheur. C'est une obligation.
On est enseignant-chercheur. Voilà. Quand on rentre au muséum, dans les ordres, nous sommes des enseignants-chercheurs très particuliers. On a une mission avec 5 activités. On fait de la recherche. On va faire de l'enseignement, aussi bien de l'enseignement universitaire que de la formation continue. On va s'occuper des collections, donc les gérer, les alimenter, les valoriser. On va faire de la transmission des connaissances, de la médiation scientifique, ce qui est très fort, on transmet à tous les niveaux. Et il me manque quelque chose. Non, je l'ai dit, enseignement. Il me manque
l'expertise. Le soutien en politique.
Ah, j'oublie. L'expertise, le soutien en politique. Donc, voilà.
Le soutien aux politiques.
Oui,
le soutien aux politiques publiques.
On nous pose, on s'occupe, par exemple, moi je connais que le milieu marin, mais on va s'occuper de proposer des indicateurs qui vont ensuite rentrer dans les directives européennes, qui s'appellent directives cadre sur la stratégie de l'eau, et ça va permettre de faire un suivi sur, par exemple, la station. Ça fait 40 ans qu'on suit des habitats, et grâce à ce suivi, on est capable de dire l'état des écosystèmes et l'évolution au cours du temps. Donc ça, c'est du soutien politique. Voilà. Donc on a ces 5 activités qui déjà sont riches et diversifiées. Et puis moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est cet aspect collection, mais pas collection pour collectionner et mettre dans des bocaux. C'est partir chercher, aller sur le terrain, voir comment ça fonctionne, replacer ça dans un cadre beaucoup plus large, comprendre le mécanisme. Je reviens toujours à la même chose, de l'océan. Et puis l'autre grosse facette, mais pour toi aussi est importante, c'est la transmission à tous les publics. Et il y a quelque chose de très fort au muséum, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est les sciences participatives, où le citoyen devient acteur de la science. Et pour nous, c'est une façon de sensibiliser le citoyen à toutes nos problématiques qui est très forte et importante.
Donc, voilà. Juste quelques chiffres là, du coup, parce que vous êtes combien de chercheurs? Il y a combien de bestioles dans les bocaux et vous
Alors,
en échangez
combien
par an?
On est
1100 scientifiques en comptant les ingénieurs et les personnels, oui. Et les personnels comme moi qui ne sont pas des enseignants-chercheurs au muséum, mais j'en dirai un mot aussi. Parce que, ça fait 1100, 1200, quelque chose comme
1200,
ça.
1200, oui.
Scientifiques, ce qui est. Le plus énorme par rapport à tous les autres muséums du monde. On a un statut très particulier de ce point de vue. On a beaucoup de recherches.
On publie beaucoup. On est le muséum qui publie le plus au monde.
1500 publications dans des revues référencées au Web of Science.
Et en termes de collection, en termes de collection sur les collections actuelles, en milieu marin, on est les premiers. Mmh. Sur d'autres, on est deuxième, troisième. Donc, les collections nationales sont parmi les trois premières collections au monde, avec
68 millions de spécimens. Bon, c'est pas exactement, on est à 2 millions près, parce qu'on
on compte
continue
pas
à les compter.
Voilà. Il y a des collections où on compte même pas, on compte par l'eau. C'est-à-dire qu'on a un bocal, et il peut y avoir des centaines de spécimens. Et ça aussi, c'est une spécificité du muséum, c'est qu'on ne va pas prélever un échantillon. On va en prélever plusieurs à différents endroits pour pouvoir avoir de la donnée sur des populations, sur la variation des individus, et tout ça parce que derrière, on est animé par des questionnements scientifiques.
Et ce qu'on ressent beaucoup aussi dans le livre, c'est cette importance de la collection. Non pas justement parce qu'elle n'est pas poussiéreuse, mais parce qu'elle est le support de la recherche et de la découverte des connaissances. Juste au passage, j'avais un chiffre qui est dans ce livre qui m'avait fait un peu tomber de ma chaise, pas réellement, mais... Il y a 1,5 milliard spécimens collectionnés dans les collections muséales mondiales. 1,5 milliard de spécimens qui sont référencés, stockés, taxinomés, enfin classés.
Parce qu'en fait, ce qui s'est passé ces 10 dernières années, c'est que devant l'urgence, on a souhaité travailler en étroite collaboration avec les autres grands muséums du monde. Donc il y a une espèce de G12 qui a été coordonné par Bruno David et qui fonctionne avec Washington, San Francisco, etc. Je ne vais pas vous les citer tous. Et c'est là qu'on a fait ce compte dans le cadre de ces travaux, de façon à savoir ce qu'il y avait au niveau mondial. Et le bon, alors ça c'est gentil, c'est un gros chiffre, c'est un, mais ce qui est surtout intéressant pour nous, c'est de voir où est-ce qu'il y a des points forts, où est-ce qu'il y a des points faibles, parce que finalement, c'est peut-être pas la peine de continuer à mettre beaucoup d'efforts sur des collections qui sont redondantes ou pour lesquelles on n'est pas. C'est pas là que les chercheurs vont venir pour étudier tel ou tel groupe. Et donc, tout le travail qui est actuellement en cours, c'est d'essayer d'optimiser cet effort de collection pour qu'il soit plus utile pour les scientifiques, pour le public, les visiteurs, etc. Mais aussi pour éviter de continuer à éroder, de contribuer nous-mêmes à l'érosion de la biodiversité contre laquelle on essaie de lutter. Et donc, faire des prélèvements, mais beaucoup plus raisonnés.
Entrons dans le vif de la découverte du livre. Je propose d'aborder dans une première partie. Moi, il y a plein de choses que j'ai découvertes qui étaient vraiment d'espèces de nouvelles frontières, des choses que je n'avais pas imaginées, et puis des découvertes qui étaient du pur émerveillement. Je ne sais pas si j'en prends comme ça, les poissons qui parlent, les oiseaux migrateurs qui préviennent les catastrophes naturelles, le tardigrade qui résiste au zéro absolu. Une autre bestiole comme le rataupe qui lui absolument pas le cancer, il s'en fiche, que le blob qui peut apprendre alors qu'il a pas de cerveau, que enfin voilà, on peut, c'est sans fin, hein, que le champignon qui peut corriger certaines maladies génétiques, alors ça c'est absolument pas compris, mais j'ai trouvé ça fascinant. Et en fait ça, il y en a des pages et des pages de découvertes comme ça. Alors si je vous demandais, vous, quelles étaient là les découvertes qui vous ont qui vous stimulent le plus en ce moment, première question pour chacun d'entre vous. Deux ou trois, enfin voilà. Et dans votre champ de recherche particulier, qui est le vôtre, où est-ce qu'est la nouvelle frontière ? Ah bah, je vais faut se lancer.
Voilà, voilà. Oui, oui. Alors, moi, ce qui m'attire le plus, alors déjà, je suis une spécialiste, hein, je suis une taxinomiste, mais pareil, j'ouvre mon champ, j'explore la biodiversité marine. Et il y a un phénomène qui est vraiment très, très. Oui, qui est merveilleux, c'est la bioluminescence. Dans l'océan, la majorité de la lumière, en fait, est fabriquée par les organismes. Et non seulement ils sont capables de fabriquer de la lumière, mais en plus, c'est une réaction chimique, ils utilisent 98% de leur énergie pour faire de la lumière, une lumière froide. Donc, si on avait la même chose, là, déjà, en termes d'énergie, on parle beaucoup d'énergie en ce moment, hein, on serait quand même déjà plus dans les clous. Et il y a une diversité dans les processus de cette bioluminescence. Et la nature, elle a répété l'opération 40 fois dans 12 embranchements différents. Donc là aussi, on voit cette diversité. Et quand vous plongez en sous-marin et que vous descendez dans cet océan, vous pensez que vous allez être dans le noir absolu, eh bien, vous allez voir des flashs lumineux. Vous allez voir des organismes qui passent devant, là, c'est magique. C'est juste magique. On peut pas être claustrophobe. On peut pas se dire on est sous 1200 mètres de profondeur. S'il arrive quoi que ce soit, je m'en sors pas.
Il n'y a pas que le grand gousier qu'on voit.
Plein d'organismes qui sont bioluminescents. Et cette bioluminescence, on n'en connaît pas toutes les fonctions. On sait que ça sert pour les individus d'une même espèce, ça leur sert à communiquer. Parce que quand vous êtes dans le noir complet, il faut bien trouver une ruse. Il y en a deux, la chimie et la lumière. Donc, dans l'océan, il y a une grosse chimiodiversité, mais aussi cette bioluminescence. Cette bioluminescence, elle va aussi servir aux proies pour se protéger des prédateurs. Par exemple, dans le milieu peu profond, là, quand on se promène, il y a certains poissons, pour ne pas se faire manger, vont avoir des photophores, c'est-à-dire des organes spéciaux bioluminescents. Ce sont des bactéries qui vont faire cette bioluminescence. Et du coup, son prédateur, quand il va passer dessous, il va croire que c'est la lumière du jour. Et il ne va pas manger sa proie. Et inversement, il y a des prédateurs qui vont servir de la bioluminescence pour attirer leur proie. La baudroie, par exemple, on a tous eu des enfants, des petits-enfants, je sais pas quoi. Dora, la baudroie, elle a son filament pêcheur, c'est de la bioluminescence, ça lui sert à attirer ses proies, et en plus, ça sert à la baudroie pour voir. Donc c'est juste incroyable, l'humain n'est pas arrivé encore à faire ça. Sauf qu'on rentre dans une ère actuellement où on revient à un grand principe, on va s'inspirer de ce que fait le vivant. On est dans ce qu'on appelle la bioinspiration. Et le muséum accompagne ces démarches-là de bioinspiration, c'est-à-dire s'inspirer du vivant, des formes du vivant, des procédés du vivant, des relations dans les écosystèmes. Le muséum va être le garant, je vais dire un peu éthique, va dire, OK, on va vous apporter des connaissances sur la biodiversité, sur les mécanismes, mais il ne faut pas puiser dans la ressource. Et puis, il faut le faire dans des conditions environnementales durables. Je vais prendre un exemple tout simple. Une éponge, qui est un animal marin, qui ressemble à pas grand-chose, eh bien, se fait un squelette en silice qui est capable de conduire la lumière. Ça vous rappelle quelque chose? Les fibres optiques. Il incorpore du sodium, ce qui lui permet d'être très performant. Il fait ça à température ambiante, à pression ambiante, donc en termes d'énergie, consomme rien. Eh bien, les industriels sont vraiment intéressés par ce processus, parce qu'actuellement, quand on fait de la fibre optique, on fait ça à des températures, je crois, de plus de 1000 degrés, avec des pressions énormes, ça a un coût énorme, et en plus, on est moins efficace que l'éponge. Quand on la voit, on se dit, ouais, c'est quoi ce truc? Voilà. Et donc, toute cette approche-là est actuellement en plein développement, et nous, nous sommes là pour apporter des connaissances et pour être garants. Et pour moi, qui suis très sensible à la problématique de la fragilité de la biodiversité, je pense qu'on en parlera après, hein, de cette érosion de la biodiversité, eh bien, si j'ai un moyen pour sensibiliser les élus et surtout les acteurs socio-économiques à préserver la biodiversité, eh bien, je pense que c'est un moyen qui est parlant et qui va permettre de faire avancer les choses.
Merci. De Divine, alors, les sujets qui du bouquin qui vous ont étonné, et puis dans votre chambre,
j'ai lu, comme j'étais le premier coordinateur, j'ai lu tous les articles un certain nombre de fois. Quand on me pose une question comme ça, ça me génère une angoisse. Qu'est-ce que je vais dire? C'est tellement, il y a tellement de choix. Non, bon, alors, je prendrai deux trois exemples rapides, puis j'insisterai plus sur un autre. Bon, alors, il y a par exemple les météorites et l'utilisation des météorites pour faire des. Un poignard, hein, c'était à une
J'ai
époque
découvert où ça, oui. Tout en camon avait un poignard en météorite.
Un poignard en météorite au 14e siècle avant Jésus-Christ, alors qu'il n'y avait pas de métallurgie, de fer. Le poignard qui est dans la tombe de Toutankhamon, avec tout un tas d'offrandes, comme tout le monde sait, et bien c'est un poignard qui est fait à partir d'un morceau de météorite. Donc, ça, c'est assez fascinant, de même que les météorites, c'est fascinant. Je trouve ça fascinant. Je suis un peu géologue de formation quand même aussi. Mais par exemple, le fait qu'on trouve dans des météorites les briques élémentaires de la vie, on y reviendra peut-être, hein, ça, c'est quelque chose de fascinant. Alors moi, ce qui m'a le plus passionné quand j'ai fait cet ouvrage, au fond, j'étais non seulement coordinateur, mais j'étais responsable du chapitre 3 qui était sur l'humain. Hein. Justement, le dernier mot du trio. Et je me suis, avec la matière que tous mes collègues ont réunie, je me suis dit, il y a une manière de traverser, de donner une cohérence à toute cette matière en se demandant ce que c'est d'être humain. Aujourd'hui, après toutes les découvertes qu'on a faites, après avoir repoussé tout un tas de limites, hein, puisque c'est ça la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être humain? Alors, est-ce que c'est être un animal social? Ben non, il y en a plein des animaux sociaux qui.
On va y revenir à la définition.
On y reviendra. J'insiste pas plus. C'est quelque chose de vraiment qui m'avait passionné. Et alors, dans ce que j'ai plus particulièrement développé à travers plusieurs chapitres et qui concerne ma recherche de maintenant, du moment, de cette année. Il y a ce chapitre sur les premiers sédentaires. Alors on dit toujours, quand on apprend ça dans les livres à l'école, le néolithique, c'est l'agriculture, l'élevage et la sédentarisation. Ah ben, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a plein de néolithiques qui ne sédentarisent pas, et puis il y a plein de chasseurs-cueilleurs qui ne cultivent pas, mais qui sont sédentaires. Et ça, c'est intéressant, parce qu'aux alentours de 14 000 ans, il y a, en particulier au Proche-Orient, des petits groupes humains qui se sédentarisent. Ce n'est pas les premiers, il y en a eu d'autres dans la préhistoire, ce n'est pas les premiers. Ils se sédentarisent, mais complètement, c'est-à-dire qu'ils construisent des petits hameaux, des maisons en dur, etc. Et ça, c'est extrêmement difficile à comprendre, parce que ce sont des chasseurs. Un agriculteur qui se sédentarise ou qui est sédentaire, ben, il a ses champs, et puis il n'a pas besoin d'aller loin. Mais des chasseurs, ceux qu'on connaît, ils sont obligés de circuler sur un vaste territoire. À telle saison, ils vont récupérer telle ressource, ça sera les baies, ça sera la chasse, ça sera le piégeage, ça sera la pêche, etc. Et ils tournent sur ce territoire. Et s'ils se sédentarisent, ça veut dire qu'ils vont être obligés de réunir tous ces composants de l'alimentation, en puisant toujours sur le même territoire, donc c'est voué à l'échec. Sauf s'ils savent faire ce qu'on appelle aujourd'hui du développement durable à leur échelle. Et c'est effectivement ce que font ces natoufiens du Proche-Orient, entre 14 000 et 12 000. Et ils font du développement durable, c'est-à-dire qu'ils développent tout un tas de stratégies qui font qu'ils n'épuisent pas leur environnement. Et alors, ce qui est formidable, c'est que ça m'a toujours fasciné, ce natoufien. Mais moi, je fouillais à Chypre, la période qui est juste après, qui est tout début du néolithique. Et là, depuis 2 ans, j'ai un programme fantastique qui redémarre avec des découvertes étonnantes. C'est pas des natoufiens, mais c'est des gens qui sont très proches d'eux, qui sont justement avec un système de mobilité complètement nouveau, avec des bâtiments en dur, etc. Je peux pas vous en dire plus parce qu'on a fait une grosse campagne de fouilles, c'est pas beaucoup, mais là je suis vraiment passionné par ça en ce moment.
On a hâte de voir la publication. Pourquoi je vous ai bloqué sur votre définition de l'humain? Parce qu'avant, faudrait peut-être nous dire aussi ce que c'est que la vie. J'ai découvert que on connaît tous Lucie, j'ai découvert qu'il y avait un autre être. Je connaissais pas son acronyme scientifique qui est Lucas. Il y a Lucie et Lucas. Lucas est vachement plus vieux puisque Lucas c'est notre last universal common ancestor. Donc c'est voilà, c'est bien plus avant. C'est la brique, c'est le premier être vivant, j'imagine. Et du coup, comment vous définiriez la vie? Parce que avant de passer à l'humain, la vie prend des formes tellement différentes dans le livre que moi je suis pas scientifique, mais je suis incapable de définir ce que c'est.
Alors déjà, Lucie, c'est un fossile qu'on a trouvé qui correspond à un être qui a vécu il y a 2 millions et quelques d'années. Ok, Lucas, c'est un être virtuel, c'est-à-dire qu'on l'a recomposé à partir de ce qu'on sait de la diversité génétique de l'ensemble des êtres vivants auxquels on a accès. Finalement, hein, tous ceux qui ont disparu. Donc, mais l'idée, je pense qu'il y a, enfin, je sais pas comment ce mot a été donné, mais il y a sans doute un lien au moins imaginaire.
Une blague de scientifique.
Voilà, voilà. Ils sont très drôles, les scientifiques. On croirait pas comme ça. Non. Alors, la vie, moi, je dirais que c'est d'un point de vue scientifique, la vie, c'est un ensemble de molécules qui s'organisent. Séparément du milieu extérieur, je pense que la notion de membrane qui sépare l'être vivant, chez nous c'est la peau, etc., mais chez les êtres unicellulaires, la notion de membrane est très importante. Et ce qu'il y a dans la membrane, donc qui séparait du milieu extérieur, hein, milieu intérieur, milieu extérieur, c'est important. Et ce qu'il y a dedans, c'est quelque chose qui assure un certain nombre de fonctions de manière pérenne et qui les transmet. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de molécules qui sont capables, par des voies chimiques, je dirais complètement naturelles, hein, mais qui sont capables de s'organiser pour faire cette membrane simplement, et pour faire un flagelle qui va faire que l'animal unicellulaire va se déplacer, pour faire le lien avec d'autres cellules pour qu'on puisse devenir un être pluricellulaire, et pour que ça puisse avoir un sens, ces réactions chimiques qui seraient complètement anarchiques, il faut qu'il y ait un message qui commande et un message qui se reproduit. C'est le même. C'est l'ADN ou l'ARN, les acides nucléiques, qui sont le corps de la vie sur Terre, très probablement même chez des êtres et des formes de vie qui ont complètement disparu, qui ont 3 milliards d'années dont on parle dans l'ouvrage, mais peut-être aussi partout dans l'univers, parce que, et ça c'est un point fascinant, c'était ça, j'étais parti là-dessus tout à l'heure, hein, j'avais anticipé, c'est un point fascinant, c'est que dans les météorites, qu'on pensait, moi quand j'ai fait mes études, les météorites c'était de la géologie, quoi, hein, c'était pas question qu'il y ait des molécules organiques dedans, hein, mais on a trouvé plein de molécules organiques, on a commencé par trouver du carbone. Déjà, ça, c'était étonnant. Le carbone, c'est... Puis l'oxygène. Carbone, oxygène, c'est 2 des 4 composantes majeures de cette matière vivante, hein, avec l'hydrogène et l'azote. Et puis, on a commencé à trouver des petites molécules de sucre et puis des petites molécules d'acide aminé. C'est les composantes de nos protéines, celles qui vont faire une partie de la membrane. Et on a même trouvé, dans certaines météorites, on a même trouvé les fameuses briques de l'ADN ou de l'ARN. Donc ça veut dire que dans l'espace se baladent toutes les composantes de la vie sur Terre. Alors est-ce qu'il faut en conclure que la vie sur Terre est issue d'une météorite? Non, nous en tant que scientifiques on dit pas ça. Mais que la vie sur Terre ait été influencée par des apports interplanétaires, interstellaires, oui ça c'est certain maintenant. Donc notre vie, comme notre organisme, c'est quelque chose qui est le fruit de toute cette évolution planétaire sur la Terre, mais aussi d'un certain nombre d'influences et d'apports extérieurs. Je dis comme notre corps parce que vous savez bien qu'on est des holobiontes, hein, c'est-à-dire que on est des milliers d'organismes d'espèces différentes qui sont dans notre intestin, qui nous ont donné des morceaux d'ADN, hein, etc., etc. Donc ça cette pluralité, cette complexité, elle fait peur, hein, elle est un peu angoissante, mais elle est extraordinairement intéressante parce qu'on se rend compte que finalement tout ça est lié. La Terre, le vivant, les humains, tout ça est fortement lié.
Vous avez employé le terme vivant. Moi, je préfère le terme vivant à la vie. Oui. Et ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est de voir que le vivant, il y a plein d'exemples, hein, est capable de prendre, de s'adapter à plein de situations. Et que globalement, nous, humains, on se sort souvent du vivant. Mais en fin de compte, il faut qu'on soit très humble parce que on n'est pas grand-chose et on n'est pas capable de s'adapter à beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure du tardigrade. Le tardigrade, vous l'exposez, je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, hein, à des températures extrêmes, il va résister, c'est-à-dire que vous le congelez, il revient à la vie. Vous le mettez sous des radiations de 5000 et quelques kilowatts, il grille pas. Vous faites n'importe quoi, il survit à tout. Il y en a même qui disent que ça peut être un extraterrestre, parce qu'il résiste à tout. Et si un jour, voilà, les conditions sont telles, il y en a plein qui appuient sur le petit bouton rouge là, et ben il va y avoir des organismes comme les scorpions, le tardigrade et d'autres qui vont résister. Mais nous, leur atope, tous ces organismes qu'ils ont présentés là, vont résister. Et nous, non, parce que globalement, dès qu'il fait un peu froid. Je ne sais pas combien est estimé notre survie à des températures
le tardigrade négatives. Il peut aller jusqu'au zéro absolu.
Oui, mais nous, je ne sais pas.
Nous, humains, nous, peu.
Mais sur les températures plus élevées, c'est ça, hein, c'est 25 ans.
Sur les températures les plus élevées, tu peux. Il y a des travaux récents qui ont montré expérimentalement que les humains, tous, peuvent supporter des températures de 55 degrés quand en situation de sécheresse de l'air.
Oui, mais dès que l'air. Non, il faut que tu aies 25 ans, que tu sois en bonne santé.
Ah oui, absolument. Voilà. Okay, qu'on ne fume pas, on ne boit pas.
Qu'on fume pas, il y a plein de conditions. Ça veut dire oui. Que globalement, là, on n'est pas nombreux à pouvoir résister.
Si l'air est humide et s'il y a plus de. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais 75 ou 80% de taux d'humidité, eh bien, c'est 35 degrés. Et on résiste pas plus de 2 ou 3 jours et on meurt si on n'a pas les moyens de se protéger de cette situation. Alors que nos râteaux, nos tardigrades, en plus, les tardigrades, ils sont capables de subir une dessiccation presque totale. Il leur reste comme une graine. D'ailleurs, les graines aussi, hein, d'une certaine manière, c'est des choses extraordinaires, hein, des organes extraordinaires. Ils ont 5 ou 10% d'humidité et ils survivent pendant des mois, des années, des décennies.
Enfin, s'il ne reste plus que, il va falloir remettre la définition du beau, hein, parce que ce n'est quand même pas des canons de beauté.
Ah, mais ça, c'est parce que, en tant qu'homme, je pense qu'un rat taupe, s'il vous voit, il ne va pas vous trouver beau. Hein.
Non, ça, je pense que.
Désolée.
Je suis gentil, quand même.
Je suis pas un rat taupe.
Hein, justement, parlons, parce que du coup, là, dans cette définition de la vie, là où nous sommes membranes, dans cette définition de la vie où nous ne sommes pas grand-chose, je reprends vos termes, la question, du coup, est-nous là-dedans Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans l'introduction qui en fait structure aussi pas mal le bouquin et on retrouve pas mal des interrogations existentielles qu'on a. Cette phrase, c'est l'histoire naturelle moderne n'anthropomorphise pas la nature, elle zoologise l'homme. Alors moi, j'ai été élevé dans cette idée que j'étais un humain et que donc du coup, j'étais bien au-delà de l'animal finalement. Et on passe notre temps dans le livre à découvrir qu'il y a plein de choses qu'on croyait exclusivement humaines, qui ne le sont pas. Alors attaquons par là, avant de se dire, du coup, qu'est-ce qui reste qu'est-ce qu'on croyait humain et qui ne l'est plus, qui est juste naturel.
Il y a plein. Moi, je vais vous donner un exemple. Ouvre le feu. Ouais, l'exemple du poulpe, par exemple.
Le poulpe. Encore un bel animal.
Hein. On l'a pas mis là. Le poulpe, il est juste extraordinaire. Eh bien, il y a des chercheurs. Qui ont fait une expérience avec le poulpe. Ils ont mis un crabe dans une boîte et ils ont fermé la boîte avec un petit bâton. En fait, il faut tirer comme ça. Le poulpe arrive, il essaye avec ses tentacules d'ouvrir la boîte, il n'y arrive pas. Et en parallèle, il y a un écran de télé qui est allumé et qui montre juste deux doigts qui tirent la baguette. La boîte s'ouvre et les deux doigts prennent le crabe. Et c'est passé en boucle. Au début, le poulpe... Alors, c'est difficile. Là encore, je vais parler en tant qu'humaine. Voilà, je vais parce que je ne sais même pas ce qu'est l'intelligence en plus. Donc, mais je vais dire, le poulpe, il ne réalise pas. Mais il y a un moment, on ne sait pas quoi. On ne sait pas ce qui se passe. Le poulpe va vers la boîte. Avec ses bras, il prend le bâton, il enlève le bâton, il ouvre le couvercle et il prend le crabe et le mange. Donc, moi, l'intelligence, je ne sais pas ce que c'est. J'ai beaucoup de mal à le définir. Si on prend un oursin, par exemple, il n'y a pas de cerveau, il n'y a rien. Un oursin, il est capable de se latéraliser, il est capable de fuir quand il y a un robot qui va le prendre. Donc, voilà. Qu'est-ce que l'intelligence ? J'en sais rien. Donc, on disait que l'intelligence, c'était quand même le propre de l'homme.
Se latéraliser.
C'est-à-dire qu'il est capable d'aller de gauche à droite, en avant, en arrière. Et quand vous n'avez pas de cerveau, ce n'est pas évident. Normalement. Si je vous enlève votre cerveau...
Ça
ne
va pas être facile.
Ça ne va pas être facile. Non, mais les scientifiques pensaient qu'il y avait besoin d'un cerveau et d'une intelligence pour être latéralisé. Donc, non. Donc, j'en reviens à ce poulpe-là. Beaucoup plus dégourdi que ce qu'on se pense. Donc, ce n'est pas le propre de l'humain. Rire, c'était la définition hein, avant. On disait, rire est le propre de l'humain. On s'aperçoit qu'il y a des animaux qui savent rire. Les émotions aussi. Les émotions étaient le propre de l'humain. Il y a plein d'animaux qui ont des émotions au travers de notre expérience, bien sûr. Je laisserai Jean-Denis compléter, mais pour moi, la seule chose qui caractérise l'humain, et on est en plein dedans là actuellement, c'est d'épuiser les ressources. Moi, je ne connais pas une espèce qui va aller épuiser les ressources jusqu'à ne plus pouvoir survivre. Il y a toujours un moment... Ah, il va me sortir un exemple.
Non, vas-y, mais voilà. C'est intéressant, justement.
Voilà. Il y a toujours un moment où l'espèce, quand il n'y a plus de ressources, eh ben, elle arrête avant qu'il n'y ait plus de ressources. Je reviens sur le poulpe actuellement. On est envahi sur les côtes bretonnes par des poulpes qui nous mangent tous nos crustacés. Il y a une chute des crustacés. Eh ben, avant d'attendre que les crustacés soient complètement disparus, ils sont en train de migrer ailleurs. Ils vont chercher de la nourriture ailleurs. Ils sont un peu comme tes cueilleurs-chasseurs. Ils se déplacent. Enfin, ceux qui se déplacent. Oui. Voilà. Et je ne crois pas, a priori, qu'il y ait des espèces qui détruisent pour, entre guillemets, le plaisir de détruire.
L'ultra-violence.
Il va me sortir des exemples.
Non, pas du tout. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, bien entendu. Mais je ne vais pas être d'accord ou pas d'accord.
On a des travaux scientifiques sur lesquels. Ouais.
Non, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que tu dis qu'on ne connaît pas d'espèces qui soient capables de s'autodétruire. Alors, oui, si on peut en trouver, et ce sont à chaque fois des espèces qu'on qualifie d'invasives, comme nous, humains, c'est-à-dire des espèces qui sont capables de conquérir de nouveaux territoires, de s'adapter à des situations extrêmement différentes et de proliférer, mais aucune de ces espèces, j'ai en tête le rat noir ou le rat surmulot, sur lequel j'ai pas mal travaillé à une époque, mais aucune de ces espèces n'est capable de se mettre en danger, comme nous le faisons en ce moment, à une échelle planétaire.
Voilà.
C'est-à-dire que quand sur un îlot, les rats prolifèrent et les choses se dérèglent et ils finissent par s'autodétruire, bah c'est sur un îlot de 3 km de côté. Quoi. Ça, on connaît des exemples. Donc je pense qu'effectivement, tu as raison d'insister sur le fait qu'on se met en danger et aucune espèce... Alors, je ne sais pas si on va s'autodétruire. J'espère que non, quand même. Mais enfin, là, on est face à un gros problème. Et puis, alors, tu as commencé un peu le cheminement à dire bon, qu'est-ce qui va nous séparer avec ton poulpe et qu'est-ce qui va nous. Alors, l'ultra-violence, bon, c'est vrai que chez les vertébrés, il y a une espèce de gradation au fur et à mesure qu'on se dirige vers les primates, de violence de plus en plus forte, qu'on mesure par le nombre de meurtres non guerriers. Il y a tout un article qui est répercuté dans cet ouvrage.
Je vous préviens, attention aux marmottes, par contre.
Voilà, les marmottes, c'est horrible, hein, c'est les plus violentes de toutes. Mais globalement, les primates sont plus violents que tous les autres mammifères. Les mammifères sont plus violents que tous les autres vertébrés. Les primates sont plus violents que tous les autres mammifères. Et l'homme, parmi les primates, est parmi les plus violents. C'est-à-dire, et alors, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte aussi, puisque l'étude a été faite, que quand les sociétés humaines s'organisent en État, la violence est transférée à l'échelle de l'État, et globalement, la violence telle que je l'ai définie est en réduction. Ça veut dire que nos sociétés sont capables aussi de réguler. Ça, c'est une bonne nouvelle, quand même. Hein, parce qu'on se dit peut-être qu'on va pouvoir aussi réguler d'autres choses aussi importantes, voire plus importantes. Non, mais je voulais surtout revenir sur ce qui fait qu'on est humain. Tu parlais du rire. Et moi, en lisant les articles des collègues, là, c'est une question, je me suis dit, ça, c'est un fil directeur dans une partie de l'ouvrage. Qu'est-ce qui fait qu'on est humain? Et en fait, bah, les cultures, le fait d'avoir une culture, c'est-à-dire des comportements particuliers, de mettre dans nos actes techniques toute une symbolique qu'on ne maîtrise pas forcément, bah, c'est pas qu'humain. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup, enfin, pratiquement tous les primates, il y a d'autres mammifères,
les baleines, cétacés,
les beaucoup d'oiseaux, pas tous, hein, il y en a qui sont plus cultivés que d'autres, c'est pas le bon mot, mais qui ont une culture plus marquée. Et puis on a par exemple ces études fantastiques qui ont été menées chez les bonobos ou chez les chimpanzés, où on montre que d'un massif forestier à l'autre, eh bien, il y a des pratiques qui sont différentes et que ces pratiques sont transmises aux descendants. Mais ça existe aussi chez les oiseaux. Je pense au gypaète barbu, j'ai travaillé sur le gypaète barbu il y a pas mal d'années. C'est un oiseau fascinant parce qu'il apprend un tas de choses à ses descendants. Et ce que le couple apprend à ses descendants, eh bien, le couple d'à côté, il n'apprend pas la même chose. Donc il y a là aussi une amorce de culture chez des oiseaux dont on pense que c'est des vautours qui se nourrissent d'os. Et puis franchement, ils n'ont pas grand-chose à nous raconter d'intéressant. Ben, si, c'est des oiseaux magnifiques, mais c'est aussi des oiseaux très intéressants. Donc il y a tout ça. Alors qu'est-ce qui nous reste? La conscience. Bergson avait beaucoup insisté là-dessus, mais avec tout ce qu'on a découvert, la conscience, par exemple la conscience de la mort, hein, Bergson avait insisté beaucoup, la conscience de la mort, mais il y a beaucoup d'animaux, enfin, il y a un certain nombre d'animaux, de mammifères en particulier, qui ont conscience de la mort, parce qu'ils manipulent leurs descendants ou leurs collègues, je ne retrouve pas le mot, congénères, merci. Une fois qu'ils sont morts, il y a une espèce de rituel qui est collectif, socialisé, qui se développe autour exactement comme chez nous. Alors, après, il y a une question de gradation. Ça, c'est clair. On parlait tout à l'heure, on évoquait rapidement les poissons qui chantent. Bon, le nombre d'espèces, de plantes et d'animaux qui produisent des sons dans la nature, c'est faramineux. Donc finalement, nous, on produit des sons aussi, on a un organe vocal, etc. Bon, on fait peut-être pas mieux. Mais alors, on dirait, on a un langage qui nous permet de communiquer. Mais il y a énormément d'espèces qui communiquent à travers les sons qu'ils produisent, ne serait-ce que ces poissons qui grognent quand on enregistre le son des poissons, comme c'est expliqué dans l'article. Là, on a des grognements, des sifflements. On a un univers sonore extraordinairement complexe où chaque poisson est capable de reconnaître ce qui correspond à son espèce ou même à son congénère. Voilà. Donc ce n'est pas non plus quelque chose d'humain. Il y a une gradation. Et puis, il y a peut-être une chose, puisqu'on est sur les sons, peut-être une chose quand même qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est l'article de Sylvie Le Beaumain, que j'aime beaucoup, l'article, Sylvie aussi, bien sûr, mais où elle parle du chant, et elle montre que le chant et la fabrication d'instruments et la production de musique, mais qui sont une conséquence d'une production vocale socialisée qui est propre à l'homme, ça y est, j'ai lâché le mot, mais c'est quelque chose qu'on ne partage pas avec d'autres espèces. Donc on arrive à trouver quelques éléments. Alors tout ça pour dire que c'est l'exception qui confirme la règle d'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait qu'on est homme? Bien, c'est parce qu'on a une génétique particulière qu'on partage tous 7 ou 8 milliards à la surface de la Terre. Ça c'est sûr, c'est qu'on a une histoire commune d'hominidés, c'est qu'on a éradiqué les autres hominines qui, néandertaliens, dénisoviens, etc., ont vécu en même temps que nous. On les a éradiqués, il n'y a plus que notre espèce. On a fait du beau boulot. Et c'est ça qui fait qu'on est homme, qu'on partage tout ça. Mais au fond, on est constamment, pour tous les critères qu'on peut prendre, on est dans une continuité par rapport à l'ensemble de la vie, nos caractéristiques, nos comportements, etc. C'est avec peut-être des seuils quantitatifs ou qualitatifs parfois qui sont franchis.
Merci. Il nous reste peu de temps pour la dernière partie, qui est une partie qui est en gros la question de la réponse à l'enjeu de l'extinction de masse de biodiversité qui est en cours. Alors, L'IPBS, donc l'équivalent pour du GIEC dans le domaine de la biodiversité, a listé 5 menaces prioritaires. Alors, je les rappelle, hein, juste pour tout le monde, parce que c'est... Oui. Ou alors vous voulez le faire, vous les connaissez par cœur.
Non, même pour nous, ce sera bien que vous les rappeliez.
Bien sûr que non. Alors, ma question qui ira derrière, c'est quelles sont les priorités d'action par rapport à... d'action et de recherche aussi, du coup, par rapport à ces trucs, à ces 5 menaces. La première, c'est la déforestation et la dégradation des sols. C'est une activité hautement humaine, on fait ça très bien.
Aussi fragmentation des habitats.
Fragmentation des habitats. L'exploitation directe des organismes vivants. Le changement climatique. La pollution. Et les espèces invasives. Voilà, ça c'est les 5 critères, je les rappelle pour tout le monde, parce que on les retrouve régulièrement, ces 5 critères, et ces 5 critères qui sont 5 menaces qui sont essentiellement d'origine humaine, hein, même les espèces invasives, c'est nous qui les trimballons essentiellement, qui les amenons, etc. Donc voilà, ça c'est les 5 menaces. Alors, je sais qu'il n'y a pas forcément besoin, mais on va le rappeler quand même, vous allez le faire certainement, l'importance de la menace de l'extinction de la biodiversité et les mesures qui vous semblent les plus urgentes, les plus importantes à prendre actuellement, sachant qu'il nous reste 10 minutes. C'est un exercice extrêmement difficile.
En 10 minutes ?
Oui. Bah, en trois secondes, je dis que nous, ce qu'on fait pour tout ça, c'est connaître.
Oui.
Parce qu'on ne connaît pas, finalement.
Pour mieux préserver.
Quelle est une espèce, quel est l'impact d'une espèce sur son invasive sur l'écosystème d'accueil ? Pour 99% des espèces invasives, on ne sait pas.
D'autant que dans le bouquin, on découvre aussi qu'on ne connaît pas la moitié des espèces qui existent. Mmh.
Connaître les espèces qui existent. Hein, voilà. On est à 2,2 millions d'espèces de terrestres. On estime qu'il y en a 8 millions. Donc, voilà, du boulot. Donc, connaître, comprendre. Et ça, ça nous accapare beaucoup, parce que si on ne fait que connaître et décrire, eh bien, faut qu'on comprenne comment fonctionnent les systèmes. Et ensuite, conseiller. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris, on peut, dans tel ou tel cas, lancer des démarches de biologie de la conservation, répondre aux directives européennes, aider nos politiques, nos collectivités territoriales à la demande. Ça, c'est le soutien aux politiques publiques qu'on évoquait. Voilà, il y a un tas de choses. Et puis, il y a éduquer, qui est évidemment un élément fondamental. C'est le quatrième pied de toute cette lutte. Éduquer, ça veut dire que on est au service de nos concitoyens pour les informer, pour les former quand il s'agit de jeunes, dans les écoles, dans les lycées, avec Vigie Nature École, par exemple. On en parlait des écoles tout à l'heure en arrivant. Et puis, faire ce qu'on fait aujourd'hui, faire des ouvrages. Et tout ça, c'est notre rôle dans la société que de... alerter, je crois qu'on n'en est plus à l'alerte, hein, mais informer, expliquer et aider à une prise de conscience collective. Nous-mêmes, on est loin d'être parfaits, on est comme vous tous, on a tous les mêmes défauts, les mêmes mauvais réflexes d'oublier de fermer son robinet quand on se lève les dents. non, mais voilà, c'est des choses comme ça. Je pense qu'on est vraiment là dans un mouvement collectif et nous, on se sent de responsabilité. Parce qu'on est censé connaître un peu moins mal que les autres, du moins c'est ces questions-là.
Et moi, pour répondre à votre question, où est-ce qu'on va avec cette érosion de la biodiversité ? Je ne sais pas où on va. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu des crises dans le passé. Il y en a eu plus d'une soixantaine. Il y a eu 5 crises majeures. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, bon, des espèces ont disparu. Beaucoup d'espèces, hein. Celles qui étaient avec les dinosaures, je crois que c'était 80% des espèces qui ont disparu. Hein. Donc c'est énorme. Et on voit bien que le vivant arrive, avec ce qui survit, à repartir et à diversifier. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, avec ce qu'on a dit, nos caractéristiques physiques et tout ça, si on continue à aller comme ça, c'est pas sûr qu'on fasse partie des 3% ou des 5% qui vont échapper à cette extinction massive. Et que ça, c'est un signal qu'on peut donner, peut-être, une alerte, en disant si on fait pas plus d'efforts, et tant pis, les choses vont continuer, puis il y aura des nouveaux écosystèmes. et ce seront peut-être les tardigrades ou les scorpions qui seront là pour...
Peut-être les êtres intelligents qui seront sur Terre dans un million d'années, ce sera des tardigrades. Voilà. Ou des poulpes, ou les deux.
C'est la mer, puisque le niveau des mers augmente. Ou les poulpes. Et il y aura d'autres systèmes. Donc, moi, je ne suis pas inquiète pour le vivant. Parce que jusqu'à présent, le vivant, voilà, s'en sort, trouve des solutions. Je suis inquiète pour nous.
D'accord. Et donc, du coup, une dernière question avant de clore cette séance. Est-ce qu'il y a une raison d'être optimiste ?
Oui, plein.
Ah, alors.
Il y a des solutions. Jean-Denis en a donné quelques-unes, oui. Mais il y a de la réglementation. Il n'y en a pas suffisamment, mais il y a de la réglementation. Il y a les conventions, il y a les quotas, il y a les aires marines protégées ou les aires terrestres protégées qui sont aussi...
Il y a des espèces dont on a vu remonter. Mmh. Je pense au thon rouge. Hein. Oui. Là, il y a un article sur la gestion des pêches. C'est quelque chose dans lequel le muséum est très engagé, hein, dans ses applications. Ben, on a des systèmes de suivi, d'alerte, qui nous disent là, attention, la pêche est excessive, et c'est ce qui s'est passé avec le thon rouge. On a réussi en alertant et en suivant, parce que nos collègues sont dans les commissions européennes, mondiales, etc., pour intervenir et faire part de leur expertise. Ben, on a réussi à faire remonter les populations de thon rouge. Alors, il y a des espèces qu'on n'a pas sauvées. Hein. Il y en a beaucoup qu'on a beaucoup. La morue, ça ne marche pas.
Le vivant est complexe. Oui. Mais après, c'est-à-dire que là. Tous les petits gestes dont on parle, ça peut être risible. Ben, il faut les faire. Si les industries font aussi des efforts, et c'est pour ça que je crois beaucoup aussi à la bio-inspiration, si on ralentit toutes ces pollutions, toute cette fragmentation de l'habitat, en fait, le gros problème dont on n'aborde pas souvent, c'est le problème de la démographie humaine.
Oui, alors il y a le problème de la démographie humaine qu'on ne peut pas contrôler. Là aussi, il y a un article qui est très, très clair de la part de Gilles Pison qui montre que on ne peut pas dire demain il faut qu'on soit moins nombreux, c'est trop tard. C'est, le coup est parti, si on peut dire, parce que on est 8 milliards et ces 8 milliards ils vont faire des enfants, même s'ils en font moins. Le temps que ça revient, que la tendance s'inverse, on sera à 10 milliards, c'est inéluctable. On peut plus reculer. Bon, donc il y a cet aspect démographique, mais il y a aussi un autre aspect qui, moi, même si je reste optimiste aussi, hein, mais il y a un aspect qui, moi, me préoccupe, c'est la vitesse à laquelle ça se produit. Parce que on connaît bien les extinctions. Maintenant, nos collègues paléontologues nous ont bien informés sur les extinctions, sur ce que ça produit, sur le peu de phylum qui en ressortent et sur le fait qu'à chaque fois, l'évolution se déroule différemment et c'est un monde nouveau dans lequel les anciens ont plus leur place pratiquement. Hein. Donc nous, on n'aura pas notre place, ça c'est sûr. Hein. S'il y a une sixième extinction, on n'aura pas notre place. C'est à peu près certain. Mais le fait important, c'est que ces extinctions, elles ont mis... En général, même si elles apparaissent ponctuelles dans l'histoire de la Terre, elles se passent sur un délai assez long, ce qui fait qu'il y a quelques phylums qui arrivent à s'en sortir. Là, c'est pas le cas. Là, ça va à une vitesse faramineuse. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Terre depuis 4 milliards d'années, autant qu'on le sache, à une vitesse où c'est sur un siècle et demi, hein, que tout ça s'est produit. On le voit dans toutes ces courbes qui sont produites. Si vous allez voir ce que c'est que l'Anthropocène sur Internet, vous verrez ces courbes qui... Bon, donc ça c'est préoccupant. En dépit du fait que moi je vois aussi à quelle vitesse notre société, nos sociétés occidentales, attention, c'est pas forcément vrai partout, mais réagissent. Moi je trouve qu'il y a un répondant de la société, c'est jamais assez. Je trouve qu'il y a un répondant, une prise de conscience. Mais cette prise de conscience, elle est déjà un peu tardive. C'est pas trop tard, c'est pas ce que je veux dire. Mais on aurait bien aimé qu'elle ait lieu dès qu'on a commencé à parler de printemps silencieux, ou quand nous, dans les années 80-90, au retour du sommet de Rio, quand on a commencé à dire là vraiment on est mal parti, c'était 1992. On aurait bien aimé que ça démarre à ce moment-là, la prise de conscience, ça n'a pas été le cas. Donc maintenant ça démarre, mais il faut pas perdre de temps. Voilà.
Très bien, je vous remercie. Nous arrivons au terme de cet échange. Nadia Amezian et Jean-Denis Vigne, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de partager avec nous la richesse de toutes vos recherches et qui ont été traduites dans cet ouvrage, dont je rappelle le titre aux éditions de La Découverte, « La Terre, le vivant, les humains ». Vous trouverez cet ouvrage au fond de la salle, alors une séance de dédicace après la séance, ou bien à la librairie Mola ou sur mola.com. Je vous remercie.